hungry, when you get 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 hungry, une thématique de la rédaction de Grenouille, en partenariat avec l'École d'art d'Aix-en-Provence.
Aujourd'hui, troisième et dernière émission sur le partage des savoirs et la privatisation des connaissances. Vous avez pu entendre dans les émissions des derniers jours des débats sur la question de la propriété intellectuelle dans le champ artistique et dans celui de l'économie de l'immatériel. Aujourd'hui, propriété intellectuelle, brevets, commerce et santé, réflexion croisée avec Jean-Christophe Holl, philosophe et professeur à l'École d'art d'Aix-en-Provence, et Fabienne Orsi, économiste chercheuse à Paris 13, dont le travail est axé sur la question de l'OMC et l'accès aux médicaments du sida dans les pays du Sud. Nous ferons ensuite une incursion du côté de la recherche avec Bertrand Jordan, généticien et coordinateur de Marseille Génopôle. Ce sont les étudiants de l'École d'art d'Aix qui auront le dernier mot. Plus de 40 millions de malades du sida dans le monde selon l'ONU Sida, dont une majorité dans les pays du Sud, qui n'a que très peu accès aux soins. Et la situation ne va pas s'arranger. L'Organisation mondiale du commerce, loin de favoriser l'accès aux médicaments, bloque l'utilisation des génériques dans les pays pauvres par le biais de nouveaux accords économiques, les accords ADPIC. Grâce à ces accords, l'OMC inclut les médicaments dans les contraintes liées à la propriété intellectuelle, dont nous avons parlé les jours précédents. Du coup, les nouvelles molécules seront dorénavant protégées par des brevets durant 20 ans et le détenteur pourra les vendre au prix qu'il fixera lui-même. Concrètement, les médicaments récents contre le sida, les médicaments qu'on appelle de seconde ligne et qu'on utilise lorsque des résistances aux médicaments de première ligne apparaissent, ne pourront plus être concurrencés par des génériques. Leur coût élevé les rendra donc inaccessibles aux pays pauvres. Les pays du Sud se voient ainsi légalement contraints d'abandonner la production et l'importation de médicaments génériques à prix abaissé. Et c'est sur cette situation que s'appuie par exemple la firme Novartis, qui a récemment attaqué l'Inde en justice pour commerce illégal de médicaments génériques. Réflexion croisée avec Jean-Christophe Holl et Fabienne Orsi. Quelle est la fonction d'un brevet à l'origine et quelle est la situation actuelle qui en découle, en fait?
Alors, un brevet... Fabienne Orsi. En fait, donc je parle ici en tant qu'économiste. Un brevet, en fait, c'est un outil d'incitation à la recherche et l'innovation. On va dire un outil d'incitation à l'investissement privé dans la recherche et l'innovation. Mais en même temps, donc, ça signifie quoi? Ça signifie que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à la fois un droit d'interdire à un tiers l'usage de la connaissance produite, et c'est aussi un droit de monopole. Et donc, qui dit droit de monopole, donc un droit de monopole temporaire, et qui dit droit de monopole dit effectivement la possibilité pour le détenteur du brevet de fixer des prix de monopole. Donc, c'est des prix élevés, c'est-à-dire supérieurs à ceux des prix en situation de concurrence. Ce qui est aussi d'important à souligner, c'est que on justifie ce système que à partir du moment où il améliore le bien-être de la société. Et donc, ça signifie que on doit imposer des limites à ce système de brevets. Donc certaines limites peuvent être définies, mais ce qui est important de souligner aujourd'hui, c'est que justement, on est dans une situation où toutes ces limites ont été dépassées avec la mise en place de nouvelles règles internationales en matière de droit de propriété intellectuelle. Notamment, par exemple, on va citer le cas du médicament, puisque c'est ce qui nous occupe. Dans le système international de propriété intellectuelle qui prévalait jusque-là, on reconnaissait un statut spécial aux médicaments, ce statut spécial étant le statut de bien essentiel, ce qui signifie en fait que l'objectif pour les biens essentiels est d'en faciliter l'accès au plus grand nombre, et c'est la raison pour laquelle, dans le système international de propriété intellectuelle qui prévalait jusque-là, on reconnaissait en fonction du développement économique des pays le droit à ne pas mettre en place de protection privée sur les médicaments. Et c'est la raison pour laquelle la majorité des pays du Sud ne reconnaissaient pas les brevets sur les médicaments.
Ce qui n'est plus le cas.
Ce qui n'est plus le cas, effectivement, c'est depuis la signature de l'Organisation mondiale du commerce en 1994 et de son fameux accord ADPIC, et bien effectivement, c'est la fin du statut spécial des médicaments. Donc c'est la fin de l'ancien système de brevets, système différencié de brevets. Et donc effectivement, une des conséquences de ça, c'est que les pays du Sud sont obligés de reconnaître les brevets sur les médicaments. Donc ça veut dire aussi la fin pour eux de produire des médicaments génériques à prix ABC. De les produire, mais aussi de les acheter.
Quel est l'intérêt de ces accords pour, à la fois pour les États, pour les malades et pour les industries?
Pour les malades, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Au contraire, c'est un désintérêt, puisqu'il y a un problème d'accès aux traitements qui se pose, puisque du coup, les traitements vont être plus élevés que dans la situation antérieure. Justifier ça, eh bien, ça se justifie simplement, ça participe d'un mouvement d'ensemble, d'un renforcement de la propriété intellectuelle. Ce n'est pas uniquement que dans le cas des médicaments, mais dans le secteur de l'art, dans le secteur de l'informatique, dans le secteur des sciences de la vie. Ça participe d'un mouvement général de renforcement de la propriété intellectuelle avec une forte idée qui est que plus de protection intellectuelle amène à plus d'innovation.
Au cours de votre conférence, Fabienne Orsi, vous précisiez justement que la possibilité de déposer un brevet induisait une situation de monopole temporaire qui pouvait aboutir au blocage de l'innovation et même au blocage, à la limitation de la diffusion de l'innovation et donc du savoir.
Oui, en fait, là, on sort du champ stricto sensu et encore que des médicaments pour en fait remonter à l'amont, qui est l'activité de recherche à proprement parler et qui plus est à l'activité de recherche de base, on va dire, ou recherche fondamentale, comme on veut. Et ce qui est intéressant à comprendre ici, c'est que dans ce mouvement d'ensemble de renforcement de la propriété intellectuelle, ce que maintenant des individus peuvent breveter, ce n'est plus le résultat de la recherche aval, donc ce n'est plus des inventions, mais ce sont des découvertes. C'est-à-dire en amont, par exemple, c'est le cas en particulier dans le domaine de la recherche sur le génome humain, on peut désormais breveter une séquence de gènes, un gène de susceptibilité à certaines maladies et tout ça. Donc ce qui se passe, c'est qu'on brevette le résultat de la recherche amont et en même temps, on brevette l'ensemble des applications potentielles de cette découverte. Donc bien évidemment, on est dans un monopole particulièrement large et effectivement, ça peut avoir des répercussions sur les développements ultérieurs et donc ça peut bloquer la recherche et l'innovation ultérieure.
Concrètement, aujourd'hui, quel est le problème auquel sont confrontés les pays du Sud ?
Les pays du Sud sont confrontés à plusieurs questions. Donc la première des questions, c'est la question de l'accès aux médicaments, puisque c'est la fin de l'industrie de médicaments génériques, enfin du moins la fin de la production libre de médicaments génériques à prix ABC. Donc ça veut dire que c'est des prix qui vont de nouveau, après une phase de baisse du prix, on entre dans une phase d'augmentation importante des médicaments et notamment des médicaments les plus récents puisque désormais ils sont couverts par brevets. Donc la question qui se pose c'est comment les pays du Sud vont pouvoir poursuivre leur politique d'accès au traitement de lutte contre traitement du sida qui se sont mis en place depuis maintenant quelques années. La deuxième question importante pour les pays du Sud, c'est la question relative à l'appropriation justement des savoirs traditionnels et de l'appropriation de la biodiversité. Et la biodiversité mondiale, elle majoritairement étant localisée dans les pays du Sud. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un très très gros enjeu qui est, effectivement, donc ça rejoint les questions d'appropriation du savoir, l'appropriation de ces savoirs et de ces connaissances. Par bien évidemment les pays du Nord.
Jean-Christophe Holl.
Peut-être quelque chose qui a été énoncé dans la présentation, en tout cas dans le débat après la présentation, qui était la façon dont aujourd'hui des modèles alternatifs qui se sont développés sur d'autres domaines, sur d'autres secteurs, par exemple en particulier sur le terrain de l'informatique et des logiciels, et qui est l'apparition des licences libres, et donc de la possibilité de réinventer ou de recréer quelque chose qui n'est pas exactement de l'ordre du domaine public au sens traditionnel, mais qui est une modalité réglée de partage du savoir, est en train de faire modèle et de présenter un espace qui est un espace intéressant, avec cette, peut-être cet élément un peu complexe, que les licences libres ne sont pas nécessairement hors commerce ou ne sont pas nécessairement gratuites. Enfin, ce n'est pas exactement la même chose, hein, la licence libre et la gratuité. Et que donc, ce qu'on est en train de voir, me semble-t-il, c'est la façon dont un modèle à une vitesse assez grande est en train de rencontrer des difficultés internes, qui est celui de l'appropriation des privés des connaissances, et comment d'autres modèles sont en train de surgir, qui sont à la fois alternatifs et à la fois complémentaires. Alors on est dans un endroit assez compliqué, qui est cet équilibre ou ce jeu entre ce qui est de l'ordre du modèle alternatif et la façon dont ces modèles alternatifs peuvent jouer aussi des rôles complémentaires par rapport, y compris à la sphère du marché.
Moi, je suis assez d'accord avec ça aussi. Je pense que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est de plus en plus d'acteurs, hein, on va dire, de terrain. C'est ça qui est important aussi, ils sont en train de prendre conscience qu'on est vraiment allé trop loin dans le renforcement de la propriété intellectuelle, l'appropriation privée dans des tas de domaines, et que l'enjeu aujourd'hui, c'est comment on redéfinit le domaine public. Et c'est vrai que cette discussion, elle est beaucoup menée à partir du mouvement des mouvements du logiciel libre, et c'est vrai qu'on est en train de voir un mouvement qui va au-delà, à partir de ce principe même, qui va au-delà, qui dépasse le domaine même proprement parlé des logiciels, pour s'étendre à d'autres domaines, comme l'art, comme les multimédias. Et effectivement, on assiste à ce genre de questionnement dans le domaine des biotechnologies aussi. Et ça, c'est très intéressant. Comment on applique le principe de licence libre à d'autres domaines d'activité ?
Est-ce qu'il y a,
il y a des expériences en cours dans le domaine des biotechnologies. Et vraiment, ce qui est très intéressant, moi, je trouve, hein, c'est que l'enjeu dans tout ça, c'est vraiment, aujourd'hui, on a besoin de redéfinir le domaine public à travers des... Voilà, on a besoin de règles pour définir le domaine public, pour protéger le domaine public. Et ça, on le voit aussi, c'est un tas d'initiatives comme les Scientific Commons et Creative Commons, et, qui sont inspirées, de toute façon, hein, du mouvement des logiciels libres. Et ça, c'est très intéressant.
Il faut peut-être ajouter quelque chose, c'est qu'il y a à l'arrière-fond de ça une autre question, qui est la question de la façon dont évoluent nos sociétés, en particulier de la place de l'État dans nos sociétés. C'est-à-dire que quand on est en situation de dire qu'il y a des espaces dans lesquels essaie de se réinventer quelque chose qui est de l'ordre du domaine public, sans y être totalement réductible, en tout cas au modèle ancien du domaine public que nous connaissions, c'est bien parce que la question de la place de l'État dans nos sociétés est en train de se transformer et que l'État est en train de reculer. Donc on est bien dans une situation dans laquelle l'État n'est plus la solution unique, en tout cas, bien sûr il reste extrêmement important, mais il n'est plus le seul endroit au travers duquel puisse se constituer un champ du domaine public, mais se génère à l'intérieur de la société et à partir d'initiatives qui sont des initiatives extrêmement complexes, distribuées, démultipliées, des formes d'expérimentation sociale qui sont extrêmement importantes et extrêmement riches.
Et ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'effectivement, partout dans le monde, on assiste à des micro-organisations, on va dire, hein, comparativement à la machine à broyer de l'Organisation mondiale du commerce, qui sont en train d'élaborer des propositions alternatives. Oui, effectivement, alors que ce soit dans le domaine de l'appropriation privée ou dans d'autres domaines. Mais ce qui est certain, c'est qu'on retrouve au niveau des acteurs de terrain, on va dire, des choses qui se passent partout dans le monde et qui ont une même fibre qui repose sur les mêmes principes. Ah ben on peut en citer plein des exemples. Hein. On peut citer le regroupement d'associations des Indiens d'Amazonie pour essayer de défendre leur savoir traditionnel. On peut citer plus largement les forums mondiaux altermondialistes, comme les forums sociaux altermondialistes aussi. On peut citer des expériences qui sont plus petites, à des niveaux plus bas, dans les favelas de Rio. Il y a plein de choses qui se passent et on peut aussi citer, enfin, et même on pourra en citer d'autres en France qui sont peut-être sujets en ce moment à débat. Mais ce qui est certain, c'est qu'on retrouve des signes, enfin des traits communs à des choses qui se passent partout dans le monde et qui effectivement se mettent en place progressivement. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, personne aujourd'hui peut dire ce que ça peut donner. Mais en attendant, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, est-ce que c'est comme peut-être un signe d'un retour à une certaine démocratie ou une démocratie nouvelle. Ce qui est certain, c'est que ça part d'une base, quoi.
Est-ce que les regroupements humains et les organisations alternatives peuvent avoir du poids face à des monstres économiques ?
Mais elles ont déjà eu du poids, justement, pendant plusieurs années. La production de médicaments génériques, donc quelque part, c'est une alternative aux seuls médicaments brevetés qui étaient proposés, donc à des prix inaccessibles pour les pays du Sud, grâce justement à la mobilisation d'organisation de la société civile diverses et variées, et de par le monde, en fait, on a pu produire des médicaments génériques à des prix particulièrement abaissés, de l'ordre de 80% moins cher que les produits brevetés. Et donc, effectivement, ça a été une première bataille avec des succès considérables. C'est vrai qu'on rentre dans une deuxième phase ici qui est beaucoup plus délicate.
Pourquoi ?
Par rapport justement au fait que désormais, à cause de ce fameux accord ADPIC, la production de médicaments génériques libres est désormais interdite. Et donc, il va falloir recourir à d'autres mécanismes beaucoup plus contraignants pour produire des génériques. Et aujourd'hui, certains médicaments, et notamment les plus récents, ne peuvent pas être produits sous forme de générique. On ne sait pas exactement ce qui va se passer et comment on va pouvoir résoudre la question de l'accès à ces médicaments par les pays du Sud.
Quand le droit de la propriété intellectuelle a été constitué, c'est-à-dire entre les 18 et 19e siècles essentiellement, la question qui s'est posée a toujours été celle d'un équilibre à ce moment-là entre un intérêt général et un besoin social d'un côté et d'un autre côté l'intérêt du créateur ou de l'inventeur. Et donc cette histoire a été très longtemps l'histoire de cet équilibre. Et ce qui est intéressant et ce qui fait l'un des objets, enfin la voie par laquelle le cycle de conférences s'est posé cette semaine, c'est bien la façon dont cet équilibre a sauté, c'est-à-dire dont des droits qui étaient des droits constitués en quelque sorte par exception, c'était par rapport à un intérêt général, dans le cadre d'un équilibre entre les deux intérêts, l'intérêt particulier du créateur et de l'inventeur et l'intérêt de la société tout entière, et bien comment ils sont devenus des droits investis d'une sorte de, comment je pourrais dire, de légitimité naturelle, comme si le fait d'inventer ou de créer générait un droit naturel, ce qui est quelque chose de tout à fait nouveau, et la façon dont, du coup, la question du savoir devient un espace d'appropriation, alors que jusqu'à présent, la question qui était posée était bien celle de préserver la potentialité créatrice, innovatrice, la possibilité d'invention, la capacité d'invention. Aujourd'hui, on se retrouve devant un intérêt qui est complètement différent. On l'a très bien vu avec le droit d'auteur en France, c'est-à-dire qu'on a un déplacement du droit d'auteur, du droit de l'auteur vers le droit de l'investisseur. C'est-à-dire qu'on on a une importance de la place de l'investisseur qui est en train de prendre le dessus sur le droit de l'auteur. Et en même temps, ce droit de l'investisseur est en train de devenir premier par rapport à un intérêt général, y compris par rapport à une politique culturelle. Bon, ce n'est pas du tout la même chose que l'histoire des médicaments. Et en même temps, on assiste à quelque chose qui est du même ordre. C'est-à-dire que voilà, et l'intérêt pour moi était bien de montrer que on ne peut pas débattre sérieusement, par exemple, des droits d'auteur. Le droit d'auteur, ça apporte aussi avec soi qu'est-ce que c'est qu'un auteur. Hein. C'est-à-dire que, de la même manière que le droit du brevet porte avec soi qu'est-ce que c'est que la recherche et donc qu'est-ce que c'est qu'un chercheur. Et donc, là, ce ne sont pas des questions juridiques, ce ne sont pas des questions seulement économiques, ce sont des questions globales qui sont situées au cœur d'un certain nombre de problématiques aujourd'hui, qui sont celles de la production du savoir et de l'art.
Non, mais juste simplement, très brièvement, je pense que l'enjeu, effectivement, c'est que on était dans une configuration qui était qu'on ne justifiait qu'un système de propriété intellectuelle qu'à partir du moment où il servait l'intérêt général, et ça, ça a depuis tout temps été, en tout cas, le principe au cœur même de tout système de protection intellectuelle depuis toujours. Et aujourd'hui, effectivement, on assiste à un renversement total de la situation où ce n'est plus l'intérêt général qui est, enfin, le système de propriété intellectuelle tel qu'il est aujourd'hui n'est plus au service de l'intérêt général, ça c'est évident, et de toute façon on le retrouve aussi dans le cas des médicaments.
Ce qui entraîne par exemple des choses très intéressantes sur ce que devient, on en parlait tout à l'heure, sur ce que devient la propriété. C'est-à-dire qu'on a construit un concept de la propriété autour de l'idée de l'objet, d'une chose, du bien matériel, meuble. Ou immeuble, mais d'un bien matériel. Donc on a là toute une série de droits qui portent sur un bien matériel. À partir du moment où on se retrouve non pas avec un droit de propriété sur des biens, mais un droit de propriété sur des idées ou sur des connaissances, la logique s'est complètement déplacée. Et l'un des éléments extrêmement importants à comprendre, par exemple, c'est que si je suis propriétaire d'un stylo et que je vends ce stylo, je n'ai plus mon stylo, je le perds. Si j'ai une idée et que je transmets cette idée, j'ai toujours mon idée. Que si mon stylo, je le distribue à tout le monde, je le dévalorise comme objet marchand. Mais que par contre, plus une idée se répand et plus elle se développe, plus elle se renforce. Et plus elle gagne de la valeur. Donc on est en train de changer de sphère. Et changeant de sphère, on a un véritable problème sur un certain nombre de concepts que certains considèrent d'ailleurs comme des valeurs, par exemple la propriété, ce dont on pourrait débattre. Hein. Mais on assiste à une véritable transformation de la nature même de ces concepts. Et donc il y a un champ de réflexion ouvert qui est un champ extrêmement important puisqu'on voit qu'on a affaire à des concepts clés d'une structuration sociale, par exemple celui de la propriété. On a affaire à des notions complètement nouvelles qui apparaissent, par exemple celle de l'accès, accès au réseau, accès à la connaissance, accès au savoir, accès aux médicaments, etc. On a affaire à une transformation de la place de l'État et donc avec l'État aussi de la citoyenneté. Qu'est-ce que c'est dans cette relation-là qu'être un citoyen et qu'est-ce que c'est dans cet ensemble que les enjeux qui portent sur ce qui a été jusqu'à présent pensé comme l'espace de l'émancipation de l'individu, c'est-à-dire le savoir et la culture.
Fabien Orsi et Jean-Christophe Holl, merci. Il n'y a pas que la santé qui soit mise en question par les conditions liées à la propriété intellectuelle. La mondialisation économique a permis au système des brevets de s'étendre au domaine du vivant. Alors, le vivant peut-il être breveté? Quelles en sont les conséquences? Nous sommes allés poser ces questions à Bertrand Jordan, généticien, coordinateur du Génopôle de Marseille et auteur, entre autres, de « Génétique et génome, la fin de l'innocence ». Bertrand Jordan, bonjour.
Bonjour.
Alors déjà, qu'est-ce que le génome, en quelques mots?
Alors, le génome, c'est une façon de désigner, si vous voulez, l'ensemble des gènes humains, l'ensemble du patrimoine héréditaire que chacun de nous porte, qu'il vient de ses parents, de ses grands-parents, ainsi de suite. Donc, concrètement, ça s'incarne dans l'ADN, c'est-à-dire que dans chaque noyau de chacune de nos cellules, il y a les chromosomes, et dans ces chromosomes, il y a de l'ADN, il y a beaucoup d'ADN en fait, un ADN qui ferait pratiquement 2 mètres de long si on le déroulait complètement, donc ça veut dire qu'il est extrêmement entortillé. Et cet ADN, c'est une très très longue molécule le long de laquelle il y a des entités chimiques qu'on appelle des bases. Et c'est en fait la suite de ces bases qu'on appelle, nous, la séquence. C'est l'ordre dans lequel sont disposées ces bases qui constitue les messages héréditaires, c'est-à-dire les gènes, les formules des protéines que notre organisme a besoin de fabriquer pour se construire, pour digérer la nourriture, pour vaquer à ses différentes activités.
Et alors, ce que vous appelez une séquence, c'est une partie qu'on est capable maintenant de décoder, d'analyser ?
Qu'on est capable de lire.
De lire.
Qu'on est capable de lire, oui, on dit souvent décoder, déchiffrer, je dirais pourquoi ça ne me paraît pas très adéquat comme expression. En fait, ces bases dans l'ADN, il y en a quatre sortes, T, A, G et C.
Et alors, qu'est-ce que ça permet, le séquençage ?
Ça permet de repérer les cas où il y a éventuellement des mutations, des changements dans un gène qui font que la protéine dont il dirige la fabrication n'est pas fonctionnelle. Et donc, ce qui peut amener une maladie, la myopathie, l'hémophilie, enfin, pour parler de maladies héréditaires bien connues. Donc si l'erreur est dans l'ADN, elle est transmise normalement des parents aux enfants. Donc ce sont des maladies effectivement qui se transmettent de génération en génération.
Ce qu'on appelle les maladies génétiques.
Ce qu'on appelle les maladies génétiques.
Et alors la connaissance de la structure de l'ADN, est-ce que cette connaissance peut permettre des applications techniques, notamment médicales, qui permettraient de soigner des maladies génétiques ? Est-ce qu'on en est là aujourd'hui ?
On en est là aujourd'hui. Alors, d'abord, la quantité d'informations qu'il y a dans notre ADN, elle est énorme. Et cet ADN, il a été lu assez récemment, puisque ça a été terminé à peu près en 2003, il y a 4 ans. Alors, comme je disais tout à l'heure, on dit souvent décrypter ou déchiffrer. J'aime pas l'expression parce que ça voudrait dire qu'on a tout compris. Quand on décrypte un texte, on comprend tout, y compris le sens caché. Et là, en fait, dans le génome, bon, on a lu, c'est déjà pas mal, mais on est loin de tout comprendre. On n'est même pas, en fait, aujourd'hui, absolument capable de dire si on a 30 000 gènes ou 32 000 gènes ou 29 850, parce qu'il y a des problèmes informatiques théorique pour comprendre exact, être sûr de où commence un gène et où il se termine. Bon, mais il n'empêche que la connaissance des formules des gènes, ça permet de mettre en place des diagnostics médicaux, par exemple le diagnostic par analyse d'ADN qui permettent, par exemple, quand vous avez un couple dans lequel il y a une famille dans laquelle il y a une maladie héréditaire, on peut faire un test prénatal à partir d'un petit morceau du placenta qu'on récupère, qui vous permet de savoir si l'enfant qui est en gestation ou l'embryon qui est en gestation est ou non atteint de la maladie. Et donc, éventuellement, d'avoir une interruption grossesse si c'est une maladie très grave. Donc ça, c'est une utilisation. On peut aussi, à partir de la connaissance de la structure de certains gènes, de la séquence de certains gènes, se débrouiller pour faire fabriquer le produit du gène par des bactéries ou des levures. Quand on connaît la structure d'un gène, on peut manipuler ce gène, on peut l'isoler à partir de l'ADN humain, on peut l'introduire dans une bactérie ou dans une levure, dans un micro-organisme, après l'avoir un peu modifié, et arriver à ce que cette bactérie ou ce micro-organisme fabrique une protéine humaine qui a un rôle thérapeutique, qui est un médicament. La connaissance d'un gène permet, par exemple, de mettre au point un diagnostic. Il y a un exemple assez connu qui est une forme héréditaire de cancer du sein qui est causée par des mutations dans un gène qu'on appelle BRCA. Enfin, il y en a plusieurs, BRCA1, BRCA2, BRCA3. Donc, on a tous ces gènes, hein, vous et moi, les hommes, les femmes, et tous ceux qui n'ont pas le cancer du sein et malheureusement ceux qui l'ont. Mais s'il y a certaines modifications, certains changements dans la séquence, dans la suite des lettres, dans ce gène, à ce moment-là, la personne, bon, en général une femme qui porte cette mutation, a un risque très élevé de développer un cancer du sein au sein de son existence. Elle a quelque chose comme 50, 60, 70% de chances d'avoir un jour un cancer du sein. Mais c'est bon, donc c'est quand même important de pouvoir faire une analyse sur l'ADN de la personne pour savoir si elle porte ou non cette mutation. C'est quelque chose qu'on fait, qu'on essaye de faire systématiquement. Or, en fait, ce gène, il a été isolé par une entreprise en collaboration avec un laboratoire universitaire, enfin principalement par une entreprise américaine qui s'appelle Myriad Genetics. Et cette entreprise a breveté le gène et c'est comme ça assuré en principe l'exclusivité de réaliser l'analyse de ce gène. Et donc, en principe, si vous voulez faire analyser l'ADN d'une patiente pour savoir si elle porte ou non cette mutation, vous devez envoyer le prélèvement à l'entreprise qui va lire la séquence du gène et vous dire quelle mutation il y a, moyennant un tarif qui est de l'ordre de 3 000 €. Donc c'est assez cher, c'est un test qui est assez compliqué à mettre en œuvre, mais en principe, donc, en raison de l'existence de ce brevet qu'a acquis cette entreprise, vous n'avez pas le droit de faire ce test vous-même. Après une longue bataille juridique, le brevet de Myriad Genetics a été invalidé au niveau européen. Donc maintenant, les...
Pour quelle raison ?
Parce que, je me souviens plus des attendus exacts, mais enfin parce qu'il y avait suffisamment d'indications datant d'avant la prise du brevet. Et ça n'a pas été annulé, si vous voulez, pour la raison de principe qu'on n'a pas le droit de breveter une séquence d'ADN.
Voilà, parce mais, que je vous posais la question, parce qu'il me semblait qu'on peut introduire une nuance entre ce qui est produit par l'homme et ce qui...
Oui, je vais y revenir parce que c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que je voulais d'abord expliquer pourquoi ça a eu de valeur commerciale. Mm-hmm. Bon, donc en fait, la situation actuellement, c'est qu'en Europe au moins, ça c'est un type de valeur commerciale de la connaissance de l'ADN. Un autre type de valeur commerciale, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire être les premiers à avoir isolé un gène, à avoir compris à quoi il servait, et l'utiliser après l'avoir transféré dans un autre organisme pour fabriquer une protéine qui a une valeur commerciale en général en tant que médicament, donc pour facteur de coécoagulation ou pour le PO par exemple, est fabriqué de cette façon. Parce que même si vous n'avez pas concrètement en main le gène, si vous connaissez la formule, vous pouvez très facilement le synthétiser. Donc c'est vraiment la connaissance là qui a une valeur commerciale.
Ouais. Donc c'est seulement l'information qui est brevetée. Alors, parce qu'on extrapole dans le langage courant, on dit le brevetage du vivant.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a de vivant dedans ? Non, c'est du savoir.
Pour nous, disons européens, enfin en particulier français, un brevet c'est sur une invention. Donc c'est quelque chose qui a été inventé par l'homme et donc l'inventeur a droit, grâce au système du brevet, à une certaine période d'exclusivité pour profiter de son invention avant que tout le monde puisse la reproduire. Et ça nous paraît, en général, assez normal. Et ce qui nous choque dans la brevetabilité du vivant, c'est que ce qui est breveté, ce n'est pas quelque chose réellement qui a été inventé, c'est la séquence, la suite des lettres d'un gène qui existait dans la nature avant qu'on le lise, avant qu'on le découvre, qui existe toujours, et c'est ça qui est la matière du brevet. Alors, ce problème-là, si vous voulez, il existe beaucoup moins aux États-Unis, dans la mesure où la notion de brevet aux États-Unis ne fait pratiquement pas intervenir la notion d'invention, fait intervenir simplement information, utilité, et éventuellement la difficulté technique du processus qui a permis d'obtenir cette information. Et au niveau européen, c'est la directive européenne qui est toujours pas transposée en France, c'est-à-dire qui est toujours pas mise dans la loi en France. Mmh. Elle est assez ambiguë ou malhonnête, en ce sens qu'elle dit qu'on n'a pas le droit de breveter les gènes humains en tant que tels, mais à partir du moment où ils ont été sortis du corps humain, où ils sont dans une bactérie, on peut les breveter. Ah, oui. Et comme les sortir du corps humain, les breveter dans une bactérie, aujourd'hui c'est le B.A.B.A., ça veut dire qu'on peut les breveter. Les industriels poussent évidemment au maximum pour qu'on puisse breveter les séquences d'ADN. Une bonne partie du Parlement européen ne veut pas, en particulier bien sûr tout ce qui se rapproche de la frange écologiste et même la gauche en général. Et bon, c'est une formulation un peu roublarde qui a permis de faire passer cette...
Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Moi, ce qui me semblerait... La meilleure situation, c'est qu'on ne puisse pas breveter la séquence elle-même, qu'on puisse breveter l'usage qu'on fait de cette séquence. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une loi, c'est la position qu'avait pris Jean-François Mattei. Il y avait une pétition lancée par Jean-François Mattei, et puis donc l'ancien ministre de la Santé, et un socialiste allemand dont j'ai oublié le nom, pour qu'on adopte cette règle, au moins au niveau européen. Donc, pas de brevet sur la séquence, tous les brevets qu'on veut, à partir du moment où c'est justifié, sur les utilisations de cette séquence. C'est-à-dire que dans cette optique-là, Myriad Genetics, par exemple, aurait pu breveter la façon dont ils lisent l'ADN et dont ils l'analysent pour en tirer des informations sur la présence de mutations, mais pas la séquence elle-même. Malheureusement, je crois que ça, c'est un peu un vœu pieux, parce que le brevetage des séquences d'ADN, il est en place, il se fait depuis déjà assez longtemps. J'ai un peu regardé les statistiques, enfin, il y a des milliers et des milliers de gènes humains qui sont brevetés. Même si on avait une position unanime en Europe, ce qui est loin d'être le cas, étant donné que les États-Unis représentent les trois quarts de la biotechnologie mondiale et que nos industriels, s'ils veulent avoir un marché mondial, il faut qu'ils puissent travailler aussi aux États-Unis, c'est difficilement rattrapable. Il faut voir aussi que l'alternative au brevet, du point de vue de l'industriel, je veux dire que d'abord un brevet, c'est d'une certaine façon essayer de confisquer le bénéfice d'une découverte, dans le cas de l'ADN, puisqu'on découvre une séquence d'ADN plus qu'on ne l'invente. Donc le brevet, ça peut être, on peut dire que c'est vouloir confisquer les bénéfices d'une découverte, mais la découverte elle-même est rendue publique. Je veux dire, quand vous prenez un brevet sur une séquence d'ADN, vous déposez dans la base de données du bureau des brevets des États-Unis ou d'un bureau quelconque européen, la séquence du gène en question, et cette séquence, elle est disponible pour, en tout cas, les usages de recherche. Bon. Si cette recherche aboutit sur une application commerciale, à ce moment-là, il va falloir négocier une licence avec le titulaire du brevet. Mais c'est faux de dire que les brevets confisquent l'information. Si vous voulez, ils confisquent l'utilisation de cette information, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
L'application technique issue ?
L'application commerciale. À partir du moment où vous faites de l'argent avec quelque chose qui est dérivé d'une séquence qui est brevetée, vous ne pouvez pas le mettre sur le marché si vous n'avez pas passé un accord avec le détenteur du brevet, qui peut vous demander un tarif prohibitif ou qui peut refuser de vous donner une licence. Enfin, vous êtes quand même un peu à sa merci. Mais d'un autre côté, du point de vue d'un industriel, l'alternative au brevet, ça peut être le secret. C'est-à-dire que s'il ne peut pas prendre un brevet sur la séquence d'un gène dont il tire un produit extrêmement intéressant, eh bien, il va la garder secrète.
Il a le droit ?
Ah oui, il a le droit. Rien n'oblige quelqu'un qui fait un travail à révéler au monde entier le résultat de ce travail. Et ça s'est produit. Hein. Il y a eu toute une période dans l'exploration du génome humain où il y avait des entreprises qui avaient un très grand nombre d'informations partielles sur les gènes humains. Bon, à l'époque, on utilisait une technique qui donnait des petits bouts de séquences qu'on obtenait très facilement, qui finalement fournissait pas mal d'informations, mais il y a eu tout un débat à ce moment-là sur savoir si oui ou non ces petits bouts de séquences pouvaient être brevetés. Et ça s'est tourné plutôt vers la négative, parce que c'était une information très, très parcellaire.
Et comment vous, quelle évolution vous projetez par rapport à cette situation ?
Je ne sais pas comment ça va tourner. Je veux dire, il y a actuellement on a vraiment tendance, en particulier aux États-Unis, à breveter à tort et à travers tout et n'importe quoi. Il y a aussi des brevets sur le clonage, par exemple. Et ça commence à devenir un problème, y compris pour les industriels, parce qu'ils ne peuvent plus lever le petit doigt sans avoir à passer des licences avec 6 ou 7 entreprises différentes. Donc on est cerné par les brevets. Et ça, bon, je pense qu'effectivement, enfin, mon opinion, c'est que ça va beaucoup trop loin, et je dirais que c'est une opinion quand même assez générale, y compris dans le monde de l'industrie. Mais en même temps, c'est un mouvement qui est lancé, et c'est extrêmement difficile d'en sortir actuellement.
Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un enjeu de société ?
Alors, il y a un enjeu de société qui est ce qu'on appelle la marchandisation du vivant. Ça fait partie de ce mouvement-là, c'est-à-dire que de plus en plus de choses qui nous touchent de très près et qui étaient du domaine, d'un domaine purement médical, relativement égalitaire et rentre dans le domaine du marché. Bon, les partisans purs et durs du libéralisme vous diront que c'est par la régulation du marché que le bien commun est le mieux assuré. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit, ce soit vraiment exact dans tous les cas. Non, bon, les brevets font partie effectivement de l'appropriation. Alors, c'est de l'appropriation avec les limites que je mettais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'information est quand même disponible, ce qui est important, mais de l'entrée dans la sphère marchande de choses qu'on aurait tendance à considérer comme personnelles, intimes, patrimoine commun, inaliénable, etc. etc. On fonctionne dans une société qui sur les règles du marché, et je pense qu'on n'en sortira pas de si tôt. Donc on peut rêver d'un système totalement différent, mais bon, on n'a pas vu que ça donne des résultats vraiment, vraiment meilleurs. Donc la question, c'est de se rendre, d'avoir conscience de ce qui est en train de se passer, et de réguler ce marché dans les domaines où c'est le plus nécessaire, c'est-à-dire dans l'utilisation des tests génétiques, dans la disponibilité des nouveaux traitements médicaux, dans mettre des garde-fous au niveau de la procréation médicalement assistée, enfin tout ce genre de choses. Alors c'est pas facile parce que, d'une part, parce que les demandes même les plus débiles existent et peuvent être solvables, et donc normalement un industriel va essayer d'y répondre. C'est pas facile non plus parce que la technologie évolue extrêmement vite et que la loi lui court après, et le temps de la loi est un temps en général assez lent alors que le temps de la technologie est très rapide. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire actuellement.
Je vous remercie.
Je vous en prie.
Et maintenant, pour conclure, la parole aux étudiants de l'école d'art d'Aix-en-Provence où nous avons enregistré ces émissions.
Alors, égal, toujours, l'esprit, loin de se rendre fidèle. En gros, il dit... Mais aussi de se reconnaître comme tel dans son aliénation sous la forme du sentiment et de la sensibilité. Donc ça, on va dire que c'est l'artiste qui, par sa pratique sensible,
ouais,
se rend un peu aliéné par rapport à la société ou par rapport à son deuxième lui qui est la pensée, quoi.
C'est-à-dire qu'il est dépendant de...
Non. Je continue. Bref, s'appréhender dans cet autre lui-même. Et il le fait en transformant cette forme aliénée en pensant, en pensée, et en la ramenant ainsi à lui-même. En se rapportant ainsi, en se comportant ainsi à l'égard de cet autre que lui-même, l'esprit, loin de se rendre infidèle à ce qu'il est réellement, loin de s'oublier et de s'effacer, ou de se montrer incapable de saisir ce qui diffère de lui-même, appréhende au contraire lui-même et son contraire. Le concept est en effet l'universel qui subsiste dans ses manifestations particulières, qui déborde sur lui-même et sur l'autre que lui-même, et possède ainsi le pouvoir et l'activité nécessaires pour supprimer l'aliénation qu'il s'est imposée. C'est pourquoi l'œuvre d'art dans laquelle la pensée s'aliène elle-même fait partie du domaine de la pensée conceptuelle. Et l'esprit, en la soumettant à l'examen scientifique, ne fait que satisfaire le besoin de sa nature la plus intime. Domaine de la pensée conceptuelle. C'est-à-dire que, par exemple, Klein,
ouais,
je ne sais pas si ça a à voir, mais moi ça me ramène à ça, Klein, quand il a voulu protéger, breveter son IKB, c'était pas pour... je crois pour vendre plus cher son truc, ou je crois que c'était plus pour établir la primauté de son truc. C'est-à-dire qu'un brevet est daté,
ouais,
et que la date fait preuve que c'est lui qui l'a dit en premier. Parce que souvent,
là,
tu prends le cas
pas,
du suprématisme de Malevitch et Rodchenko. Rodchenko, il a fait des monochromes noirs,
ouais,
et puis il a affirmé un peu plus tard les avoir fait avant Malevitch, quoi. Donc c'est un peu dans ce terrain-là, peut-être.
Ouais, mais ça,
c'est-à-dire qu'il y a tellement d'artistes, tellement de choses qui se font, et qu'on est tellement versé dans le côté économique de la chose que quand on a une bonne idée, on veut la garder pour soi et on veut...
Ça fait partie... Enfin, ça, c'est un truc général, en fait, que tu retrouves partout.
Alors après, le brevet, c'est pas ce qui donne... de la valeur à l'idée.
Ouais.
Je crois que c'est...
Non, une idée, c'est pas brevetable. De toute façon, tu peux pas breveter une idée. Quoi. Ça, c'est clair et net.
Si,
peux...
mais non, si, parce que...
Tu non, protèges pas maintenant.
Tu protèges en fait un procédé.
On peut pas projeter pour breveter une idée, mais dans le monde de l'art, par exemple, tu penses aux avant-gardistes,
ouais.
Tu vois.
Ouais, non, mais
c'est l'idée qui prime, donc... quelque part, si tu vas faire une expo, par exemple, si moi, la peinture que j'ai commencée en 2002, je ne la montre pas avant 2008, par exemple,
ouais.
Et qu'entre-temps, il y a quelqu'un qui va arriver et qui va faire carrément le même boulot que moi en me disant je fais ci, comme ça, moi, je vais me dire, bon, il a pompé mon boulot, quoi. Ou alors, c'est vraiment un truc...
En fait, tu vois, c'est pareil, regarde. Si tu prends un exemple à la con, voilà, il y a une boîte qui fait un produit, machin, tu vois, bon, ils mettent du temps à développer leur truc, ils sortent un super produit, ils le brevettent. Il y a une autre boîte qui, dans les mêmes délais, enfin, à peu près à la même période, pareil, fait quasiment le même produit, tu vois, arrive finalement au même résultat, quoi, tu vois.
Ça, on le voit constamment. Hein.
Oui, mais c'est ce qui se passe tout le temps. Non,
c'est ça,
hein,
c'est...
Arrive au même résultat, mais avec une méthode différente, tu vois.
Mm-hmm.
Voilà, donc il y en a un, ça, comme il a été breveté avant, bah, c'est l'original, tu vois, et le reste, tout ce qui va sortir plus ou moins après, ça va être des copies, du générique pour les médicaments, de la contrefaçon pour les sacs Gucci, enfin, tu vois, toutes ces conneries. Je veux dire, au final, en fait, qu'est-ce qui compte, tu vois, au final, c'est je me sers de l'objet, tu vois. Voilà, c'est l'utilité de l'objet. Après, savoir que c'est machin qui l'a fabriqué, bon, ça peut servir pour la culture générale, ok. Mais s'il y a une autre personne qui arrive à développer le même truc quasiment au même moment, mais avec des moyens détournés, je vois pas où est le problème. Je vois pas pourquoi cette personne-là, la deuxième qui arrive à développer la même chose que le gars qui l'a fait soi-disant en premier, pourquoi le premier lui demanderait des comptes, tu vois, pourquoi il aurait à payer quelque chose. Alors ça, je veux dire, c'est ridicule.
Il n'y aurait pas à demander des comptes.
Non, mais attends. Ce qui se passe au niveau des brevets, c'est ça le problème.
Ouais,
au niveau de tout ce qui est droit d'auteur et tout, mais même au niveau créatif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un mec qui fait un truc, quoi, tu vois, il dit voilà, c'est moi qui l'ai fait, c'est mon idée, c'est ma réalisation, et je la protège.
Bah, donc, c'est pareil pour la musique, tu vois, les
oui,
mecs qui ont samplé plein de groupes, autant de musique électronique ou de rap ou n'importe, qui ont samplé en fait d'autres gens. On prendra le cas d'IAM. Qui ont samplé, tu sais, pour On vous met le feu, je crois, c'est ça, et qui ont été rattrapés par des musicos autrichiens qui ont pris une amende de folie parce qu'ils avaient repris en fait tout l'air. Donc c'est la même, quoi. Comment tu fais? Parce que bon, eux ils l'ont repris, mais ils ont réinterprété, ils ont fait autre chose avec.
Ils ont fait autre chose, exactement.
Donc la question elle se pose, tu vois.
Mais
c'est...
De toute façon, je veux dire, c'est le truc de la connaissance, tu vois, voilà. L'humanité,
ouais,
comment on apprend et comment le savoir il avance. À un moment donné, c'est un truc, tu vois, maintenant on le retrouve beaucoup, on parle beaucoup, tu vois, genre des outils collaboratifs, de tout ce qui est logiciel libre, fonctionnement en réseau avec les gens et tout.
Je te donnerai la citation indice, mais Lamartine, il disait « Je suis convaincu que chaque œuvre de la plus grande puissance existe à l'intérieur de chaque être.
Mm-hmm. »
Donc il suppose l'art, la création, la puissance à l'intérieur de chaque personne et qu'elle ne nécessite même pas de sortir dans la réalité. Quoi.
Mm-hmm.
Voilà.
Ça remet en question l'artiste et ce que...
Non, ça ne remet pas en question parce que...
Est-ce que tu es obligé de créer, c'est ça en fait? Est-ce que si chacun possède cette force créatrice, est-ce que tu es obligé de créer pour être un...
Bah,
tu es
obligé de créer si tu veux que les autres le voient, en fait, voilà.
Ouais.
C'est
donc
ça.
Nous, entre, avec des gros guillemets, nous les artistes, pour avoir ce statut d'artiste, on est obligé de créer, quoi, c'est ça? C'est un peu
c'est
ça que tu veux dire.
On est obligé de créer, mais
dire
après,
qu'on est artiste, quoi.
Est-ce que je vais le montrer passer par des systèmes établis,
ouais.
Ou est-ce que je suis dans mon truc, au bout de mon truc, jusqu'au bout, comme Gazirovski qui peint avec sa merde, qui adore les croûtes, qui adore tout ce qu'il y a de plus, à la limite, de plus vulgaire, de plus bas dans l'art, et qui l'assume comme tel, quoi. Et on voit Gazirovski, bon, il est mort, voilà, il a payé son tribut, quoi. En tout cas, son œuvre, elle est là, et maintenant on en parle. Donc, j'en reviens à Deleuze qui dit qu'est-ce que la création, par la musique, la création en général, c'est un ensemble de sensations, de perceptions et de sensations qui subsistent
à celui qui les éprouve, autant à l'artiste même qu'à celui qui va les écouter 100, 200, 300, 400 ans plus tard. C'est-à-dire que, est-ce que la finalité de l'art, c'est où ? C'est pas la postérité post-mortem, quoi. Que ces idées-là, elles soient reconnues par la suite comme étant des idées qui étaient nouvelles dans le contexte contemporain, comme tu dis, je suis contemporain. Soit ton œuvre, elle va être vouée à disparaître, parce que soit tu n'as pas été au bon endroit au bon moment, soit tes idées n'ont pas circulé et n'ont pas fait leur chemin, soit parce que tu étais un mauvais peintre et que, comme Van Gogh, on roulait les toiles pour mettre des frics dedans, et des, tu vois, il y a des toiles comme ça de Van Gogh, il en filait, là, qui vendait, qui faisait des cornets avec ses toiles. Voilà.
Mais la différence, c'est que là, on a d'autres moyens de diffusion qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'il y avait, qu'il y a eu précédemment. Maintenant.
Mais
en plus de ça, c'est que la communication qui n'existait pas auparavant depuis 20-30 ans maintenant, qui est devenue un outil abordable par tout le monde, qui change la donne, mais de façon internationale et mondiale, quoi.
C'est clair, là, il y a tout qui change.
C'est-à-dire que maintenant, moi, je peux avoir autant de capacité et d'énergie et de puissance que avec des gros guillemets, que la grosse firme de je sais pas quoi ou le Louvre, tu vois, au niveau diffusion, quoi. Je pourrais, tu vois, un petit groupe pourrait avoir autant d'impact qu'un gros groupe financier et tout ça, quoi.
Mais c'est ce qui se
avec
passe
les possibilités qu'on a actuelles, quoi. C'est tout l'intérêt de. C'est bête, on aurait pu encore en discuter, mais voilà. C'est pour ça les droits d'auteur.
On va en discuter des jours et des jours, mais je pense qu'on a articulé pas mal de choses importantes.
Nous arrivons au terme de ce cycle d'émissions sur le partage du savoir et la privatisation des connaissances. Enfin, pas tout à fait au terme, puisque cette thématique trouvera un prolongement le vendredi 2 mars à 18h. Nous ferons une émission en direct avec un représentant de la Confédération paysanne sur les questions que soulève la propriété intellectuelle dans le domaine agricole. En attendant ce rendez-vous, pour en savoir plus, vous pouvez visiter les sites suivants. Le site de Jean-Christophe Holl, www.plotseme.net, plotseme.net, ou bien le site de l'espace multimédia de la Friche Belle de Mai, www.zinlafriche.org, ou pour un peu d'humour, le site des Yes Men, www.deyesmen.org. Merci à Jean-Christophe Holl et à l'École d'art d'Aix-en-Provence où nous avons réalisé ces émissions, ainsi qu'aux étudiants Toufik, Driss et David qui ont réalisé les petits modules que vous avez pu entendre à la fin des trois émissions. Merci également à Peter Wong dont nous avons allègrement utilisé les musiques qui sont sous licence libre. Vous pourrez réécouter ces émissions le 27 et le 28 février ainsi que le 1er mars à 10h.